Pola,
Vin
et Compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposée par l'association Culture Art Polar Sud-Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Bonjour auditeurs, auditrices, lecteurs et lectrices. Voilà 3 semaines que nous nous étions quittés. Un petit décalage dû à l'arrivée de nouvelles émissions sur Radio Larzac. Et oui, Radio Larzac, une émission qui bouge, qui se développe. Mais nous reprenons notre rythme quinzomadaire et ce jusqu'au mois de juin prochain. Et nous avons aujourd'hui dans le studio Florent. Bonjour Florent.
Bonjour.
Et nous attendons Didier. Didier qui vient nous parler cinéma. Bonjour Didier.
Bonjour, vous êtes prêts ?
Ben oui.
Un petit complément d'actualité ?
Quand je ne dors pas, la nuit se traîne, la nuit n'en finit plus.
Quelle entrée, Didier !
Ouais, vous venez d'écouter un petit extrait d'une chanson de Petula Clark, hein, « La nuit se traîne ». La chanson préférée de Michel Blanchard, le jeune réalisateur de « La nuit se traîne ». Un film que Polar et Vin vous propose en association avec le cinéma de Millau, le 21 novembre à 20h30, le premier long métrage de ce jeune réalisateur. Un jeune réalisateur qui d'ailleurs commence à être connu puisque son court-métrage « T'es morte, Hélène » a été plusieurs fois primé. Il sera même adapté en long-métrage aux US par Sam Raimi, le réalisateur de la trilogie Spider-Man. Rien que ça ! Un thriller donc nerveux, mélangeant à la fois l'action et le film de genre. Michel Blanchard le voit comme une dédicace au cinéma de Steven Spielberg, le réalisateur à l'origine de sa vocation. Il est également influencé par le cinéma de Michael Mann, notamment son fameux film Collateral, qu'il cite volontiers dans ses interviews, et aussi par celui de George Miller et ses Mad Max. La nuit se traîne se déroule le temps d'une nuit. Le personnage principal, Maddy, étudiant le jour, chirurgie la nuit, est entraîné dans une affaire de grand banditisme. Un soir, il dépanne Claire, une jeune fille énigmatique qui n'est pas celle qu'elle prétend être. Cette porte n'est pas celle de son appartement et le sac qu'elle veut à tout prix récupérer n'est pas le sien, mais celui de Yannick, Romain Duris, un homme auquel Maddy va devoir rendre des comptes. Pris dans une course-poursuite infernale, Maddy n'a qu'une seule nuit pour prouver son innocence. Nous le suivons dans un Bruxelles baigné d'une lumière jaune, poisseuse, comparable à celle de New York dans les Batman. Une balade qui vous donnera envie d'y aller. Unité de lieu, unité d'action, unité de temps. Les règles du théâtre classique au service d'un polar contemporain, réalisé par un jeune metteur en scène très talentueux. Venez nombreux.
Merci Didier, une présentation qui effectivement nous donne envie d'y aller. Et d'aller où ? Le 21 novembre à 20h30 au cinéma de Millau, La nuit se traîne de Michel Blanchard. Et si j'ai bien compris, c'est le premier film d'une série dans le cadre du partenariat entre l'association Cap Polar Sud-Aveyron et le cinéma de Millau.
Oui, exactement. Je pense qu'on arrivera à vous proposer des films récents environ toutes les 6 semaines. Évidemment, des films en lien avec notre vocation, des polars. Bon, et puis, peut-être, des surprises concernant la science du vin. Voilà.
Ben, merci Didier. Donc, tu n'étais que de passage, alors on te relâche.
Je vous remercie. C'est toujours agréable de venir parmi vous.
Polar et Vin et Compagnie, c'est du cinéma, donc, mais c'est aussi et surtout de la lecture. Il y a 3 semaines, donc, Sylvie nous a présenté les 5 livres et auteurs qui avaient été choisis pour le futur prix Robin Cook. Florent, tu peux nous les rappeler, s'il te plaît ?
Oui, je les rappelle avec plaisir. Sébastien Vidal, de Neige et de Vent, chez Le Mot et le Reste. Antonin Varenne, pour La piste du vieil homme, chez Gallimard. Olivier Gallien pour Sève, chez Robert Laffont. Olivier Bordassar pour la disparition d'Hervé Snout chez De Noël et Madame Pascale Chouffaut pour la théorie des ondes chez Le Rouergue. Vous pouvez vous les faire offrir, c'est bientôt Noël.
Et puis ils seront dans les médiathèques, vos médiathèques préférées, à la fois sur Millau, Sainte-Afrique et puis dans les villages. Mais on vous donnera la liste. Pour l'instant, les médiathèques ont été contactées et sont en train de nous répondre et avec encouragement. Donc voilà, c'est une liste qu'on donnera dans quelques temps. Le prix Robin Cook, donc ça c'est le prix Robin Cook adulte. Et il y a aussi un prix Robin Cook jeunesse pour les collégiens. Et il y aura une nouveauté cette année avec un prix Robin Cook junior pour ce qu'on appelle les cycles 3, c'est-à-dire les enfants qui sont en CM1, CM2 et 6e. Pareil, on vous donnera quelques informations plus tard. Une chronique qui a démarré dans le dernier numéro, « Rien à vendre ». Cette nouvelle rubrique où tout un chacun peut venir présenter un coup de cœur ou de foudre pour un roman, un film, une série, une revue, un événement en rapport bien sûr avec notre sujet, le polar ou le noir. Le génial inventeur de cette rubrique, Florent, nous parle aujourd'hui d'une littérature trop sous-estimée et pourtant...
Rien à vendre, donc j'ai rien à vendre, donc j'arrive avec pas grand-chose à vendre et j'avais envie de vous parler effectivement du polar africain, voilà. Hein, si je vous dis Modibo Keïta ou Assé Gueye ou Monsieur Makuta ou Monsieur Dikolo, ça doit pas vous dire grand-chose et pourtant ce sont des écrivains qui ont déjà à leur actif plusieurs polars ou romans noirs, souvent édité par des éditeurs africains, donc un peu invisible dans les librairies, c'est dommage. Mais bon, parfois certaines œuvres sortent et deviennent un peu plus populaires. Voilà, alors le polar africain, il a une particularité. Il est né assez tard, alors officiellement pour... le polar anglophone, c'est 1974, avec un livre qui s'appelle Fellah's Choice, qui n'a jamais été traduit, que je ne connais pas, que je n'ai pas lu. Hein. Et l'auteur, c'est Kole Omotoso. Voilà, alors Fellah's Choice, pour les gens vraiment curieux, ça vaut 80€ d'occasion sur eBay. Voilà, c'est un petit bouquin. Donc ça, c'est officiellement le démarrage du polar anglophone africain. Chez les francophones, ben, on a pris un peu de retard. Ça a pris 10 ans. Donc c'est un Sénégalais, Modibo Keïta, qui lui a édité chez un éditeur français dont j'ai plus le nom. J'ai mal préparé ma chronique. C'est pas bien ça. Ça s'appelle L'Archer Bassari, 1984. Alors, je pense que ça doit être sûrement épuisé, mais trouvable et plus abordable que le livre précédent. Voilà, ça sont les deux premiers romans policiers avec détective et tutti quanti. Et depuis les années 80-90, le polar a acquis en quelque sorte des lettres de noblesse, avec notamment des auteurs africains comme Dion Meyer, qui est beaucoup plus connu, donc Afrique du Sud, ou Yasmina Kadra, algérien, donc qui vaut le coup aussi d'être lu. Et puis on a évidemment nos auteurs antillais, comme Patrick Chamoiseau, fantastique responsable d'un chef-d'œuvre qui s'appelle Texaco, et qui a écrit un polar absolument génial qui s'appelle « J'ai toujours... » aimer la nuit. Voilà, donc le polar africain, ben, je pourrais en dire un peu plus, mais ça prendrait trop de temps. Il y a une chercheuse qui a été traduite en français qui s'appelle Karen Ferreira Meyers, qui travaille dans une université en Afrique du Sud et au Swaziland, et qui a écrit pas mal d'articles sur l'historique des polars africains, voilà, et qui note par ailleurs que le polar africain a cette particularité de pas beaucoup se tourner vers l'avenir, mais plutôt de dénoncer le présent. Donc c'est un polar où, moi je trouve, pour ceux que j'ai lus, il y a à la fois beaucoup de magie et beaucoup de dénonciations, que ce soit politique, c'est souvent politique, ou sociale. Voilà. Pour finir rapidement, je pense que j'ai encore une petite, un petit peu de temps, trois livres qu'on trouve en librairie ou qu'on peut commander et qui sont vachement bien. Donc il y a Kavina de Boubacar Boris Diop, qui, alors lui, ça doit être son cinquième ou sixième roman. Il est édité chez Philippe Ray. Voilà, ça se passe en Afrique, dans un pays qui est pas cité. Et on a tout, on a du meurtre, de l'enquête policière. Voilà, il y a un autre roman qui s'appelle Rebelle, venu de l'Est, de Ikenna Oké, qui est édité chez Mera Édition, éditeur africain. Ça se passe à Port Harcourt, donc ça doit être au Nigeria. Voilà, souvent les traductions sont excellentes d'ailleurs des bouquins. Alors ça, c'est un vrai polar avec de l'action et de la nature. Et puis un autre livre nigérien, un autre polar qui s'appelle Notre quelque part, qui est très poétique et très très bien traduit. Je dis ça parce que la traduction a un prix, a eu un prix, donc c'est assez rare. Et l'auteur, c'est Ni Parks, Ayikwe Ni Parks, Notre quelque part, chez Zulma, qui est un éditeur très bien distribué, qu'on trouve partout et qui est spécialisé dans les romans étrangers. Voilà, ça c'est trois polars qu'on peut s'offrir soi-même à Noël.
Super. Mais merci Florent.
Ben,
effectivement, la littérature dont on parle assez peu. Mais on a prévu, je crois, de faire une voire deux émissions, on avait dit, sur cet hiver, un peu, peut-être aussi pour nous réchauffer.
Oui, pourquoi pas.
De traverser la Méditerranée pour voyager un peu. Inspecteur Dérif. L'inspecteur Dérif, c'est un interrogatoire qu'il avait réalisé au mois de mai dernier. Quand Rachel Corenblit était venue sur Millau, oui, mais qu'était-elle donc venue faire?
L'interrogatoire de l'inspecteur Dérif.
À ta place, moi, je prierai pour que ça finisse vite.
Il est 11h23. L'interrogatoire commence, l'inspecteur Dérif pose des questions, Rachel Corenblit répond. Nom, prénom.
Corenblit Rachel.
Profession.
Autrice et professeur de français.
Vous habitez à
Toulouse.
Chicoutimi, Jérusalem, Nice, Paris, Marseille et enfin Toulouse. Dites-moi, on a la bougeotte chez les Corenblit?
En fait, on a l'esprit nomade, oui, mais c'est un peu malgré moi. Ce sont mes parents qui ont beaucoup bougé quand j'étais jeune. Et voilà, c'est un peu comme oui, une maladie, mais qui n'est pas forcément désagréable.
Et le 3 et 4 mai, on vous a vu dans les rues de Millau, vous faisiez quoi?
Paraît-il, oui. En fait, je déambulais pour rencontrer des élèves dans un collège, pour participer à une table ronde avec une autre dame, une autre autrice, Laurence Bieberfeld.
C'est important de rencontrer ses lecteurs et ses lectrices?
Non seulement c'est important, c'est essentiel. Écrire, c'est un acte solitaire. Et on est dans une bulle, on ne parle à personne qu'à soi-même ou aux multiples êtres qui sont dans nos têtes. Et rencontrer les lecteurs et les lectrices, c'est donner corps et donner vie à ce qui est de l'ordre du silence, c'est-à-dire l'écriture.
Rachel Corenblit, notre première affaire, c'était en 2007. Lecture avec votre papa, je crois, à Toulouse. Shalom, salam, maintenant. Votre premier roman, deux adolescentes, une juive, Camille, et une palestinienne, Shaïma, échangent leurs histoires familiales avec l'information du moment. Quels pourraient être leurs échanges et qu'est-ce qu'elles pourraient se dire aujourd'hui?
Alors déjà, monsieur l'inspecteur, vous avez une bonne mémoire. Ça remonte, 2007. Et puis, c'était en compagnie de mon beau-père et du musicien Didier Dulieu, effectivement. C'était mon premier roman sur l'Israël, la Palestine, l'histoire de quatre enfants, deux enfants juifs, deux enfants arabes. Et leur petite fille, donc Shaima et Camille, qui se retrouvent dans les années 2000. Et à l'époque, elles pouvaient se parler. Je pense qu'aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, elles ne se parleraient pas. Elles ne parviendraient pas à échanger. Et c'est là toute la misère de la chose, et tout le drame et tout le malheur. C'est que les mots sont plus. À l'état actuel, les mots sont plus possibles.
Depuis 2007, donc 20 ans, presque 40 livres édités. 40, c'est aussi le nombre de tentatives pour trouver l'homme de sa vie. Pour reprendre le titre d'un de vos romans, c'est une expérience personnelle ?
Non, c'est marrant parce qu'on me pose toujours cette question. 40 tentatives, c'est l'histoire d'une... C'est un anti-Bridget Jones, en fait. C'est sur cette idée que l'amour peut s'assimiler à un truc de consommation où on peut choisir son prochain en fonction de critères sur Internet. Et c'est aussi en référence à L'amour est dans le pré, où on a cette idée qu'on peut filmer, photographier et prendre... avoir une sorte de télé-réalité de l'amour et que c'est captable par les images et par les médias. Donc c'est plutôt un texte humoristique. C'est plutôt comment tenter de se trouver soi-même avant de trouver les 40 autres.
En tout cas, la famille, elle tient un rôle important dans vos romans.
Je pense que c'est une thématique qui traverse tous mes romans, effectivement. C'est comment on fait famille, comment on défait sa famille, comment une famille, c'est le lieu de tous les drames et c'est le lieu de tous les bonheurs. Et c'est le lieu de toutes les larmes, qu'elles soient de gaieté ou de tristesse. C'est le lieu de toutes les tensions. C'est le lieu où on se fait et où on se défait. Donc oui, c'est passionnant, les familles.
Et ça vient aussi en complément de... Enfin, j'ai vu ça dans une de vos interviews. Vous expliquez que votre écriture et votre vie sont habitées par les histoires avec un petit H qui nourrissent l'histoire avec un grand H.
Et en fait, c'est dans la continuité, tout à fait, inspecteur, vous avez tout à fait raison. C'est cette idée que notre individualité, c'est ce que j'écris dans mon premier roman, l'histoire de petits gens mêlés dans la grande histoire qui est celle de la création de l'État d'Israël, tout comme mon dernier roman qui est l'histoire de tout petits gens, une famille qui est mêlée aux grands événements du monde. Donc c'est passionnant de voir comment on se fait à travers l'histoire avec un grand H et comment nos histoires avec un petit H se mêlent et s'entremêlent. C'est assez passionnant à détailler.
Vous avez une image plutôt triste de jeunesse ? Et alors, pour les amateurs de polars et de romans noirs qui nous écoutent, qu'ils soient adultes et adolescents, quels de vos romans vous leur conseilleriez de lire pour vous découvrir ?
Il y en a plusieurs, ça fait un peu prétentieux, mais il y a Un petit bout d'enfer, qui est mon premier roman noir au Rouergue, qui raconte l'histoire d'un homme qui kidnappe une jeune fille sur 3 jours dans la montagne noire, au-dessus de Mazamé. Et c'est de points de vue de ce kidnappeur et de cette jeune fille, et comment leur histoire s'entremêle. Donc c'est assez noir. Il y a La mer sans le bleu, forcément, chez Inuit, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui subit une tentative de viol. Donc c'est un roman, effectivement, enfin, assez dur, mais je pense qu'il n'y a pas de sujet tabou en littérature. Et il y a un roman que j'affectionne aussi particulièrement, qui s'appelle La Maladetta, qui est un roman plutôt fantastique, noir, où c'est l'histoire d'une jeune fille qui part en montagne avec sa mère et son frère, et dans le Mercantour, ils sont à 2000 mètres d'altitude, il n'y a pas de réseau, c'est la maison d'une de leurs tantes, et elle apprend que sa tante s'est suicidée dans cette maison, qu'il y a 5 tombes autour de la maison, plus haut dans la montagne, et voilà, c'est pour grands ados, et c'est assez terrifiant, enfin j'ai essayé que ça soit terrifiant.
Pour terminer, l'actualité littéraire de Rachel Kornblit, c'est quoi ?
Donc il y a Comme une famille aux éditions Nathan qui raconte cette histoire de cette famille emportée par l'histoire. Et il y a la sortie en la rentrée littéraire d'un texte de ma version d'Antigone en fait. Comment Antigone apprend son secret de famille. Et c'est un texte qui est illustré par Régis Lejon. Et j'avoue j'ai très hâte d'en parler. Je pense qu'il a fait des illustrations incroyables. La puissance de la tragédie aussi, j'ai essayé de m'en emparer. Et voilà.
Merci Rachel. Et j'espère à très bientôt, peut-être sur le festival Polar Vin et Compagnie à venir.
Ce serait avec un grand plaisir. Pardon, il ne cesse de répéter. Pardon, je ne pensais pas que tu allais réagir comme ça. C'est juste une blague, une petite blague. En même temps, ses mains se posent sur moi, mes bras, mon cou, mon ventre qui est découvert, mon ventre blanc, mon ventre qui tremble, mon ventre que je hais de paraître nu. Plus haut aussi, mes seins. Il touche mes seins, mon sein droit, mon sein gauche. Je le sens, il me frôle, c'est presque délicat, presque une caresse. Puis d'un coup, ses doigts se referment sur ma chair. La douleur me traverse comme une décharge électrique qui me scelle les lèvres. Et je ne peux plus bouger. Je vois ses ongles qui s'enfoncent, son bras qui passe derrière mon dos, m'attrape les fesses, son souffle dans mon cou, sur mon front, ses lèvres trop fines, trop rouges, qui se posent sur moi, je ne sais pas où, partout. C'est ça, partout. J'ai l'impression qu'il est partout.
Rachel Korenblit qui nous lisait un extrait de La mer sans le bleu, un roman pour adolescents, pour jeunes adolescents qui étaient candidats au prix Robin Cook l'année dernière, prix Robin Cook jeunesse. Et on lui a posé la question s'il n'était pas difficile parfois d'aborder certains sujets quand on écrit pour des adolescents.
En fait, ce n'est pas en termes de facilité, parce qu'écrire de toute façon générale, c'est et facile et difficile. Se pose la question du sujet qu'on aborde et de la manière de le traiter. Je crois qu'il est indispensable de mettre des mots sur les choses dans la vie ou dans les livres et ne pas le faire en édulcorant. Ça parle d'un viol et donc ne pas trouver les mots justes, ce serait trahir mon propos. Et me limiter et me censurer, ce serait aussi trahir mon propos. Donc je m'efforce à être le plus vrai possible dans ce que j'écris, que ce soit pour les ados ou pour les adultes. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a des adultes qui ont une perception de l'enfance ou de l'adolescence avec cette idée qu'il faut encore les protéger. Protéger son lectorat, c'est une idée de protection, de manque de maturité. Je pense que les jeunes, ils sont confrontés à des choses encore pires, ou tout aussi pires, ou tout aussi graves. Et puis, il existe aussi, par exemple, tout ce qui est dark romance. C'est ce genre de littérature qui prend... Donc, je prends le contre-pied de cette littérature, puisque c'est une littérature qui est dans le mythe absolu de l'amour destructeur. C'est souvent un homme qui domine une femme et qui exerce une emprise sur elle. Et souvent, les lecteurs sont fascinés. Je pense à 50 nuances de gris, qui a lancé un peu ce genre de littérature. Donc, il ne faut pas s'offuser de mon texte dans le sens où je pense qu'il est pas aussi difficile et choquant qu'on pourrait s'imaginer.
All me and I. In the heat of the night.
Nous venons d'écouter le thème principal du film In the Heat of the Night, composé par Quincy Jones et interprété par son ami de toujours, Ray Charles. Le 3 novembre dernier, Quincy Delight Jones Jr. nous quittait. Quincy Jones, Mr. Q, 91 ans, dont 70 ans consacrés à la musique. Quincy Jones, de Frank Sinatra à la découverte de Michael Jackson, quel est le musicien qui n'a pas fait appel à ses talents de musicien? C'est un très bon trompettiste de jazz, d'arrangeur, de chef d'orchestre, de compositeur, de producteur. Pour ce qui est du film, Dans la chaleur de la nuit, donc, de Norman Jewison, il obtint 6 Oscars en 68, dont celui du meilleur film. Sidney Poitier, l'acteur principal de ce film, qui fut le premier acteur afro-américain à obtenir un Oscar pour un rôle principal pour son interprétation dans Le Lys des champs en 64. Un industriel sur le point de monter une usine est retrouvé assassiné dans la rue. Un voyageur inconnu, assis dans le hall de la gare, est arrêté par l'adjoint du shérif. Il est aussitôt accusé du meurtre car il est noir et a beaucoup d'argent sur lui. Après vérification de son identité, il s'avère que cet homme venu de Philadelphie est Virgil Tibbs, officier de police incarné par Sidney Poitier et qui va devoir travailler avec ceux-là même qu'il avait accusé. Une enquête difficile à mener quand on est afro-américain au cœur d'une Amérique raciste et ségrégationniste.
Il y a trop de gens qui ne savent pas ouvrir une bouteille de vin.
Oui, eh ben, le pinard, c'est pas interdit que je sache.
Pas d'interview aujourd'hui, puisque dès ce soir, vous allez pouvoir vous-même rencontrer de nombreux vignerons à la salle des fêtes de Millau, dans le cadre du salon qui leur est consacré. Le Lions Club, organisateur de cette manifestation depuis plusieurs années, nous fait faire un tour de France des vignobles et grands crus. Alors, il y aura du Bourgogne, du Haute-Côte-de-Beaune, il y aura des vins de la Loire, du Vouvray, du vin de Touraine. Les muscats seront à l'honneur avec du Rivesaltes, du Banyuls, du Frontignan, bien sûr, évidemment Beaujolais, Brouilly, Fleury, Morgon, Chirouble. Enfin, que des noms qui font rêver, évidemment, Terrasse du Larzac, Vin du Languedoc, Coteau du Languedoc, Pic Saint-Loup, bien sûr. Enfin, voilà. Une quarantaine de stands avec aussi des stands où l'on pourra se sustenter, puisqu'il y aura aussi des producteurs de choses qui se mangent, quoi. Donc, voilà, c'est. Moi, je conseille, on y passe une bonne soirée. C'est 3 euros en plus, on nous fournit le verre et puis on peut picoler toute la soirée pour pas cher. Bon, on achète évidemment quelques bouteilles, hein, mais voilà. Et puis, il y aura des animations. Vendredi soir, un groupe Purple Wood, alors c'est des groupes locaux. Samedi soir, No Name, c'est journée du dimanche, les fameux New Five, nos amis Miavois qui nous régalent avec leur jazz Nouvelle-Orléans. Voilà, donc c'est à partir de ce soir 16h, ce samedi jusqu'à 23h, pardon, ce samedi de 10h à 23h, dimanche de 10h à 17h. C'est le Salon des vignerons et des produits gourmands organisé par le Lions Club et c'est à la salle des fêtes. Voilà. Polar et compagnie, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, je rappelle notre rendez-vous avec le film La nuit se traîne de Michel Blanchard, la séance qui est programmée ce jeudi 21 novembre à 20h30 au cinéma de Millau. Rediffusion de cette émission mardi prochain et on se retrouvera effectivement dans 15 jours, puisqu'on revient sur notre rythme quinzomadaire. Au revoir Florent.
Oui, au revoir William.
Au revoir aux auditeurs, auditrices, lecteurs et lectrices. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en podcast sur radiolarzac.org, rubrique émission, polar, vin et compagnie.